Bonjour. Bonjour à tous, merci de vous être déplacés. C'est vraiment, j'apprécie vraiment. Le culte du dimanche matin, c'est comme un rendez-vous auquel nous nous rendons à une invitation de notre Dieu, mais c'est aussi un rendez-vous avec la communauté, c'est aussi un rendez-vous avec nous-mêmes. On peut y venir par habitude, parce qu'un dimanche matin sans culte, c'est vide. On peut y venir par obligation, pour suivre un rite. Mais il y a des fois aussi, on y vient parce qu'au fond de nous, il y a un réel besoin, un réel désir de rencontre avec Dieu, un réel besoin de nous poser, de nous arrêter dans le tourbillon, soit des activités, soit des pensées qui tournent dans la tête. Et aussi un besoin de recevoir une parole qui vient d'ailleurs que nous. Toute la semaine, on est tout seul dans notre rendez-vous quotidien avec Dieu. Le dimanche, on est ensemble pour entendre quelque chose qui vient de Dieu. Nous venons de fêter Noël, la naissance de Jésus. Jésus qui s'est fait notre frère, qui nous a fait connaître, qui est venu pour que nous connaissions qui est Dieu, qui est aussi venu nous ouvrir la porte de la maison de Dieu. Il a dit beaucoup de choses, et il a dit des paroles qui nous accueillent vraiment. Par exemple, en Jean 10, Jésus a dit « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de ma main. Nous prions. Seigneur notre Dieu, ce texte nous dit le prix, la valeur que nous avons à tes yeux. Tu prends soin de nous, tu nous appelles par notre nom, tu marches devant nous, tu nous fais connaître ta voix. Et nous, on est d'accord de marcher derrière toi parce que nous te connaissons. Merci de cet amour qui nous est promis pour l'éternité. Merci parce que personne ne pourra nous arracher de ta main. Seigneur, nous sommes là ce matin pour t'écouter, pour t'entendre. Ouvre nos cœurs. Sois avec Sylvain qui nous apportera ta parole. Et Seigneur, sois aussi avec tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, pour une raison ou une autre, et avec les chrétiens du monde entier qui te célèbrent aussi ce matin. Amen. Nous chantons « Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, comme les brebis écoutent le berger ».
Thank you. Je t'écoute. Ta parole.
C'est mieux que les paroles, c'est vrai. Je préfère être accompagné.
Pour l'ordinateur et la sono. Ok, donc. Alors, on le prend directement. Voilà.
On attaque tout de suite.
Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher.
Ce matin, Sylvain va nous parler de bâtir, de construire, de faire attention à notre construction. Le texte qu'il a choisi se trouve dans 1 Corinthiens 3. Et dans ce texte, Paul nous dit qu'on ne peut pas construire sur un autre fondement que celui de Jésus-Christ. Alors, pour la louange, je me suis dit qu'on pourrait réfléchir à qui est ce Jésus-Christ. Et j'ai choisi comme fil rouge pour la louange tous les « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis la porte » que nous avons déjà entendu, « je suis le bon berger ». Jésus dit « je suis » et en disant ça, c'est à une personne qu'il nous invite à croire, à nous réunir. Ce n'est pas à une théorie, ce n'est pas à une philosophie, ce n'est pas un discours auquel nous devons adhérer, ce n'est pas un style de vie que nous devons adopter. Jésus se propose, lui, en tant que personne. Et croire en lui et vivre pour lui, c'est vivre toujours des rencontres. Marion Muller-Collard le dit très bien. La foi de l'Évangile n'est pas faite de constructions immuables. Elle est un campement nomade qui se laisse déplacer par la rencontre. Elle est un appel, une convocation, un chemin. Mais c'est le seul moyen pour qu'il y ait entre Dieu et nous cet amour dont parle le Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Nous chantons « Tu es vie ». Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus, espoir des nations.
Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu lumière, par ton éclat, le monde.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. Né de la poussière. Je vous invite à prendre place un instant pour peut-être réfléchir vous-même, pour vous qui est Jésus-Christ, vous rappeler un peu tout ce que vous avez vécu avec lui, tout ce que vous avez découvert. Et si vous avez envie de dire quelque chose à haute voix, eh bien, merci de le partager. Nous prions. Seigneur Jésus, merci d'avoir été d'accord de venir sur la terre. Merci d'avoir rendu audible à nos oreilles les paroles de Dieu qui est dans le ciel. Merci parce que tu es venu. Amen.
Seigneur, merci pour le correctif que tu nous as apporté par rapport à ton Père. Nous nous étions trompés, mais tu nous as montré à quel point Dieu est amour. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant aujourd'hui et parce que tu nous rejoins, parce que tu chemines avec nous. Et parce qu'en toi, il y a l'espérance qui nous fait vivre. Nous t'en remercions du fond du cœur. Amen. Mmh.
Seigneur, si nous pouvons vivre tout ce qui vient d'être dit, c'est parce que tu as tout accompli. Pour que ça puisse être possible. Et ça t'a coûté, Seigneur, qu'on n'arrive même pas à comprendre. Mais Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance. Et nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, la vie ne vaut pas la peine. Seigneur, que tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, que tu reçoives toute la louange et l'adoration de nos cœurs. Amen.
Amen.
Seigneur, tu es l'amour, tu as tout accompli pour nous, hein, et tu es aussi celui qui, dans le moment de doute, d'angoisse, de peur, de maladie, est celui qui reste notre point de repère, celui vers qui on peut lever le regard et savoir que de lui, nous sommes bien, en toutes circonstances. Merci parce que aussi ce point de repère dans mon de paix, d'amour et d'espérance. Sois loué, adoré et remercié. Amen.
Amen.
Seigneur, tu es la porte, tu es le bon berger, mais tu es aussi la vraie vie, cette vraie vie qui s'est sacrifiée pour nous. Merci Seigneur de ce que nous pouvons inclure dans cette histoire de bon berger, aussi la vraie vie. L'acte le plus important, c'est toute la bonne nouvelle de toute la Bible, c'est que Dieu nous a laissé. Merci encore, Seigneur, pour ton sacrifice.
Amen.
Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rejoins. Tu m'as rejoint. Seigneur, merci parce que ce n'est pas simplement le fruit du hasard, mais le fruit de ton amour. Seigneur, merci parce que tu donnes un sens à nos vies. Tu as donné un sens à la mienne. Seigneur, c'est vrai que ta présence, l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, moi aussi, Seigneur, c'est une richesse qui donne que nous sommes des brebis, Seigneur, qui avons envie de te suivre.
Amen.
Le Seigneur, en considérant encore ta venue, ça doit être le moment de fêter. Nous nous rendons compte sous le décalage qu'il y a avec notre société qui propose des choses éphémères, qui propose de souffrance aussi parmi les peuples. Le Seigneur, nous voulons te demander de nous rencontrer dans ce royaume que tu veux, cette richesse que tu veux nous apporter au travers de ton amour.
Amen. Amen. Jésus a dit encore, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il m'aime.
Je ne sais plus où aller. Il tes peurs et tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà.
Le message de Sylvain prend racine dans le texte de 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 15. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître. Car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Voilà, bonjour. Alors, on arrive au bout d'une année. Bon, c'est un peu le moment où on s'interroge sur le temps qui passe, sur ce qui reste ou ce qui s'efface, sur ce qui est important ou sur ce qui est futile, sur ce qu'on espérait faire et puis qu'on n'a pas fait. Moi, j'aurais une liste. Des personnes qu'on espérait voir, puis on n'a pas trouvé le temps d'aller les visiter. Et puis j'ai pensé alors à ce texte de 1 Corinthiens, avec cette image de l'or et de la paille, hein, du précieux et du futile, et puis son affirmation sur un fondement unique, pour essayer de réfléchir un petit peu à notre situation. Alors ce que je vous propose, c'est un petit peu deux axes de méditation. D'une part, ce que ça veut dire pour l'Église, en s'inspirant de tout ce qui précède, pour que Paul arrive à cette affirmation très forte sur ce fondement unique. Et puis aussi, ce que ça veut dire pour nous, comment est-ce que dans nos chemins de vie, qu'est-ce que vous voyez comme or ou comme paille? Je ne sais pas. Alors, cet épître aux Corinthiens, c'est une lettre que Paul écrit à une jeune église qui est dans cette ville grecque de Corinthe. Et c'est une lettre qui est en fait un des tout premiers écrits du Nouveau Testament. En 51-52 environ, donc 20 ans à peine plus de 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus, Paul s'arrête à Corinthe. Au cours de son deuxième, ce qu'on appelle des voyages missionnaires. Alors, c'est une grande ville. Il semble qu'elle avait peut-être même 500 000 d'habitants. C'est énorme pour l'époque. C'était une métropole commerciale importante. Il y avait un port. Et puis cette ville, elle est située entre la partie, disons, continentale de la Grèce et puis le Péloponnèse, qui a une espèce de grande presqu'île. Puis d'ailleurs, on avait même construit, ça j'ai découvert que ce matin, on avait construit une espèce de rail, enfin quelque chose qui est intermédiaire entre le rail et la route, pour transporter les bateaux d'un côté à l'autre de l'isthme. Ça évite de faire tout le tour du Péloponnèse, qui fait comme un carré de 200 km par 200 km. Voilà, donc, voilà, c'était une ville où il y avait de la technique, où il y avait tout un bouillonnement intellectuel. Donc, c'était un peu à la fois un centre intellectuel et puis une ville assez, aux mœurs assez dépravées. Aussi une ville avec une population très multicolore, multiculturelle et multireligieuse. Donc peut-être ça nous ressemble un peu. Deux tiers des gens étaient esclaves, donc il y avait aussi une grosse différence entre les riches et les pauvres. Et voilà, Paul passe une année et demie dans cette ville et il y fonde une église, une première communauté chrétienne, qui se trouve aussi être le reflet de cette diversité, c'est-à-dire dans l'Église, il y avait des gens de toutes sortes de provenances, entre autres des juifs et des non-juifs, des riches et des pauvres, mais majoritairement des gens de conditions modestes. Et cette communauté fait face à toute une série de défis et de problèmes qui sont, voilà, la raison pour laquelle Paul écrit cette lettre. D'ailleurs, j'ai trouvé une phrase intéressante dans l'introduction de la TOB sur l'intérêt de cette lettre, où il disait, en parlant de cette situation très, très diverse de la ville de Corinthe, c'est ce qui fait l'intérêt de cette lettre. Elle nous montre, pris en quelque sorte sur le vif, les problèmes posés par l'insertion de la foi chrétienne dans une culture païenne, et les moyens utilisés par Paul pour résoudre ces problèmes. Alors, Paul, après son séjour, il est resté en contact avec cette église. Lui, il a beaucoup voyagé. Et puis, ces gens, ils ont eu la visite aussi d'autres personnes, et entre autres d'un prédicateur juif qui était converti à la nouvelle foi en Jésus-Christ, qui s'appelait Apollos. C'est quelqu'un qui les a beaucoup aidés dans leurs discussions avec les juifs, hein, les controverses même avec les juifs de la ville. Voilà. Alors là, on est quelques années plus tard, en 58 probablement, donc environ, 6 ans après qu'il ait fondé l'Église. Et puis, il leur écrit à cause d'un certain nombre de problèmes. Bon, heureusement que les églises du 1er siècle avaient des problèmes, parce qu'on a la moitié des épîtres, en tout cas, qui sont grâce à ça. Bon, entre guillemets. Alors, un de ces problèmes de Corinthe, c'est qu'il a commencé à se faire toutes sortes de parties dans l'église. C'était un peu à l'image de ce qui se passait dans la ville de Corinthe, parce que les gens, ils aimaient, voilà, écouter un orateur brillant, et puis les gens s'assemblaient autour d'un maître à penser éloquent. Et puis Apollos, lui, c'était quelqu'un de particulièrement éloquent, puis c'est sans doute pas lui qui l'a voulu, mais voilà, il y a des gens qui étaient pour lui, des gens qui étaient pour Paul, il y avait toutes sortes de divisions. Alors, dans le début de sa lettre, les deux, trois premiers chapitres avant les versets qu'on a lus tout à l'heure, Paul combat vigoureusement cet état d'esprit, ces rivalités qui ont surgi dans l'Église. Et c'est face à cette manière de concevoir la vie en communauté, en rivalité de différents partis, qui rappelle qu'il y a un seul fondement, Jésus-Christ. Il rappelle en même temps que c'est l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui est une œuvre de Dieu et pas une fabrication humaine. Alors il y a des gens avec leur diversité qui collaborent, mais c'est l'œuvre de Dieu. Nous souvent on voit les choses, ben, par exemple dans la mission on dit les missions. Okay, les missions c'est des organisations humaines, mais ce dont Paul parle c'est d'une œuvre de Dieu, la mission de Dieu à laquelle collaborent des différentes personnes qui sont non pas des maîtres à penser, comme on avait l'habitude, mais des serviteurs, tout simplement. Dans les versets 5 à 9. Alors, on voit que ces problèmes de division de l'Église, ils datent déjà des tout débuts de l'Église. Alors, je crois que ça a quelque chose à nous dire aussi sur l'œcuménisme aujourd'hui. Dans l'histoire de l'Église, on s'est bagarré pour toutes sortes de choses. Des choses qui nous paraissent totalement hors de propos. On s'est bagarré sur le sexe des anges à certains moments. On s'est fait la guerre. C'est un peu plus grave entre protestants et catholiques. J'ai vu une fois, moi, je suis allé à Saint-Gall, une fois, avec une classe. Et puis, ils nous ont fait visiter les restes d'un mur qui était construit à Saint-Gall. Vous savez pourquoi ? Pour séparer la partie protestante de la partie catholique de la ville. Ça fait drôle de voir ça en Suisse, hein. C'est bon, c'est un peu vieux, mais pas si vieux que ça, finalement. Puis plus près de nous, bon, quand j'étais jeune, dans les églises, on s'est trippé pas mal sur les postes ou pré-millénaristes. Puis quelque chose de plus actuel, il y a beaucoup de gens qui courent après les prédicateurs à succès, qui en général viennent des États-Unis. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup dans le monde évangélique. Et il me semble que ce que dit Paul est très en prise avec ça. Alors ce texte nous rappelle où est notre, ou nous pose la question, où est-ce qu'on met notre identité chrétienne ? Il dit qu'elle est fondée sur la personne de Jésus-Christ. Alors, ça veut dire que oui, on est une église évangélique, on est des évangéliques. Ou bien, on est protestant, on est catholique. Mais ça, c'est secondaire, nous dit Paul, par rapport à ce fondement en Christ. Je pense qu'on a besoin d'un enracinement dans une église particulière. On a besoin d'appartenir à une communauté locale, où on se sent bien, c'est juste. Notre communauté locale appartient à une fédération d'églises, ce qui est juste et bien, on fait partie du réseau évangélique. Tout cela, c'est juste et c'est même nécessaire à notre vie, à notre témoignage, à notre développement, mais ça reste secondaire par rapport à notre appartenance à Christ. Personnellement, moi, j'imagine un peu ça comme une famille. Voilà, c'est une église, cette église évangélique est ma famille, elle me soutient, on s'entraide, mais ce n'est pas une famille contre ou pour s'opposer ou pour se distinguer d'autres familles, c'est seulement pour nous aider à être ensemble, à vivre et à témoigner. Et quand on regarde le Nouveau Testament, on parlait des voyages missionnaires de Paul. La majorité, ou en tout cas une bonne partie de ce qu'il a fait dans ses voyages, c'est de maintenir le lien entre les églises. On voit aussi que quand il s'adresse aux églises dans les épîtres, il n'est jamais question d'avoir les églises de Corinthe. Il y a l'église de Corinthe. Alors il y a parfois les églises de toute une région, mais dans un même lieu, il n'est jamais question d'églises au pluriel. Alors c'est un peu sur cette base-là que j'ai, moi, cette conviction que l'œcuménisme, qu'on a le privilège de vivre assez fortement ici à Meyrin, c'est un enjeu essentiel de notre vie d'église, de notre témoignage dans la cité. Et c'est vrai que moi, j'aime mieux les endroits où on cherche à construire des ponts entre les différentes églises et communautés chrétiennes que les lieux où on essaye de construire des murs pour être sûr d'être du bon côté, voilà. Et parfois même des choses utiles et nécessaires comme les confessions de foi peuvent être utilisées pour dire nous on n'est pas comme les autres. Alors en venons-en maintenant à ce qui est un peu plus personnel. Cette histoire d'or ou de paille. Et c'est un petit peu cette image qui m'est venue. Ça veut dire un peu qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est futile. Alors peut-être que je peux vous poser la question, peut-être vous avez des idées, qu'est-ce qui est important? Par exemple, quand on fait des vœux, qu'est-ce qu'on souhaite d'important? La santé, hein? Ça c'est ce qu'on dit le plus souvent. C'est l'essentiel ou bien la santé?
Voilà.
On met énormément de choses, oui. Mais c'est vrai que la santé, c'est important, on ne va pas cracher dessus. On est très reconnaissant quand on a la santé, et puis on pense à des gens qui ne l'ont pas, y compris des gens de notre communauté qui ne peuvent pas participer à nos rencontres. Mais en même temps, ce n'est pas non plus là la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'il y a encore d'important ? Pardon ?
La paix.
La paix dans les familles, tu veux dire ? La paix dans le monde, oui. La paix dans le monde, oui, c'est important. Mais des fois, on n'y peut pas grand-chose. Et puis la paix plus proche de nous, il y a des situations où on a des fois pas non plus l'impression d'y pouvoir grand-chose, mais ça nous concerne de près. Oui ? La paix du cœur, oui. Bon, vous pouvez continuer à réfléchir. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire construire sa vie sur le seul fondement Jésus-Christ ? Pour moi, ce n'est pas prioritairement une question de doctrine. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la doctrine, mais ce n'est pas de ça dont j'aimerais partager aujourd'hui. Je pense plutôt à ce qui est notre manière de vivre, l'orientation de la vie, ce qui est notre motivation fondamentale dans la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens de pouvoir dans ce monde qui aiment bien laisser une trace. Puis je pense que tout le monde aimerait laisser une trace quelque part quand même dans ce monde. C'est un besoin qui est naturel. Bon, je pense à François Mitterrand qui a fait construire la très grande bibliothèque à Paris. Voilà, puis c'est un peu son œuvre, c'est une trace qu'il a pu laisser. Mais j'ai une fois visité un cimetière à Genève, peut-être que les vrais Genevois sauront me dire comment il s'appelle, moi j'ai oublié. C'est celui où il y a la tombe de Calvin, comment il s'appelle ? Hein ? Cimetière des Rois, voilà, merci. Alors, il y a des tombes magnifiques, extraordinaires de politiciens du 19e siècle qu'on a complètement oubliés. Puis il y a une tombe toute modeste et anonyme, qui est celle de Jean Calvin. C'est intéressant ce contraste. Alors, on a parlé de Jésus. Jésus, fonder sa vie sur Jésus, c'est un peu le prendre comme modèle. Et le modèle de Jésus, c'est une vie donnée. On l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Et finalement, ce qui reste, ce n'est pas tellement ce que j'ai fait ou ce que j'ai accompli, c'est ce que j'ai accepté de donner. C'est l'amour que j'ai pu donner. C'est peut-être des relations brisées qui ont été réparées. Mais je sais qu'on n'arrive pas toujours à les réparer. C'est du pardon donné et reçu. Voilà le genre de choses qui est à l'image de Jésus. Et par ailleurs, tout ce que j'essaye de construire pour ma gloire personnelle, ben ça c'est de la paille. Parce que justement, ce qu'on essaye de construire pour sa gloire personnelle, c'est ça qui cause toutes ces rivalités, qui provoquent des conflits insolubles, et que ces rivalités que Paul combat de manière si vigoureuse au début de son épître. Cela dit, moi je pense qu'il y a un besoin normal et naturel et juste d'avoir une reconnaissance des autres. Ça fait partie de nous. Et c'est bien que dans l'Église, comme dans la famille, comme au travail, on sache se donner les uns aux autres les marques d'appréciation qui sont motivantes, alors que l'inverse peut être terriblement démotivant. Mais si cette recherche d'appréciation d'autrui devient le moteur, alors de nouveau, c'est que je suis en train de construire sur de la paille. Voilà, donc construire sur de l'or, sur la base de Jésus-Christ, je crois que c'est une simple question de fidélité au quotidien. Dans ce que je peux donner comme amour, comme encouragement, mettre en route des personnes, transmettre une passion, sans se préoccuper du résultat, parce que comme il le dit aussi dans ces versets, c'est Dieu qui fait croître. Les résultats ne m'appartiennent pas. Moi, je peux penser à des personnes, être reconnaissant de ce que j'ai pu être quelqu'un qui les mettait en route à un certain moment, pour certaines choses. Ou ce qu'on peut donner aux enfants et aux petits-enfants, c'est une grâce. Donc c'est un peu aussi une priorité aux relations, une priorité aux dons et à la gratuité, en faisant une confiance totale à Dieu pour tout ce qui est des résultats de ce qu'on fait. Voilà. Alors, je n'en dis pas plus. Je propose qu'on prenne juste quelques instants de silence. Je ne sais pas si on veut encore ouvrir une prière après. Voilà, un instant de silence où chacun peut se replacer devant Dieu avec ses questions. Seigneur, merci pour ton amour, pour ce que tu nous as donné. Apprends-nous à donner un retour, à vivre dans notre vie cette gratuité qui vient de la grâce que tu nous as donnée, à te faire confiance aussi pour cette année qui vient. Merci encore pour tout ce que nous avons reçu. Et puis, sois avec tous ceux qui passent par des temps de souffrance ailleurs, mais aussi dans notre communauté. Amen.
Jésus, un exemple à suivre. Suivre, ça peut être usant. On ne peut suivre Jésus-Christ que parce qu'il s'est donné, parce que nous avons beaucoup reçu par lui. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. La Sainte Cène, en prenant le pain et le vin, c'est l'occasion de nous souvenir de tout ce que nous avons reçu. C'est l'occasion de nous emplir aujourd'hui de ce qu'il veut nous donner, de nous enrichir de tout ce qu'il peut nous donner pour pouvoir donner en retour. C'est là qu'est l'inspiration de notre don, c'est ce que nous avons reçu. Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » C'est une façon différente d'instituer la Sainte Cène, de lui donner son sens.
Merci, notre Dieu, notre Père, pour le don de la vie de Jésus-Christ. Merci pour ce pardon qui nous libère de la culpabilité, qui nous permet à notre tour de pardonner. Seigneur, merci pour ta vie, merci pour ton esprit, qu'il nous accompagne chaque jour dans nos chemins de vie. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de vin pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le don de Jésus, nous entrons dans la maison de Dieu. Nous sommes fils et filles de la maison de Dieu. Nous avons préparé le repas, mais c'est Jésus lui-même qui nous invite. Les gobelets roses, dans les gobelets roses, le jus de raisin.
Ceux qui souhaitent prendre la coupe, faites signe.
Pour conclure ce moment, nous chantons Jésus-Christ est Seigneur. Si vous voulez, vous pouvez rester debout, on va faire l'offrande, on va chanter encore. On bâtit. Alors, quel chant est-ce que j'ai choisi ? Seigneur, fais-nous des bâtisseurs.
Bye.
des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous faisions notre terre. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolé. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
Nous prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci parce que nous pouvons donner en retour. Cet argent que nous avons donné, c'est une petite partie, mais c'est une façon de dire merci. Nous te remettons toutes les personnes qui le recevront, nos pasteurs, les missionnaires, afin qu'ils les reçoivent comme un signe de notre amitié, de notre affection, et qu'ils soient bénis par toi. Merci. Amen. Les annonces, Sylvain, tu voulais dire quelque chose ?
Je crois pas qu'il y a d'annonce particulière, sinon que, en principe, les inscriptions sont bouclées pour la rencontre de demain soir. Ici, c'est quoi ? C'est à partir de 7 heures ?
19h, demain soir. Bienvenue à tous ceux qui sont inscrits. Et puis, si vraiment il y a quelqu'un qui dit, j'ai oublié, prenez l'autre, qui vient de l'armée, n'essayez pas de s'arranger.
Non, non, mais il sera très gentil, Paul Robert, il vous accueillera si vous n'avez pas entendu, que vous avez... Voilà. Voilà. Ouais. OK.
Alors, juste pour rappeler au niveau des annonces que nos jeunes sont en camp de ski, que notre pasteur Philippe Panchaud est aussi en camp de ski, mais pas au même. Et puis, dernier point, il y a encore la boîte pour Action de Noël pour la Frey qui est dans le foyer. C'est le dernier dimanche qu'elle sera présente. Voilà.
Merci. Voilà, donc ça sera la dernière occasion, puisque le mardi, on sera en 2019. Voilà.
J'ai encore deux autres choses. Dimanche prochain, j'ai une lecture à quatre voix tonique et j'ai besoin de deux lecteurs qui seraient d'accord avec un micro d'intervenir. Le texte est écrit, c'est pour mettre en évidence un beau passage des Écritures. Dimanche prochain, c'est le 6 janvier. Tu voudrais, toi ? Oui ? Alors, autre chose, nous aurons des ateliers bibliques. C'est le soir à 20h15, entre début février et le mois de mars. Pour les aînés, on fera quelque chose, on se débrouillera parce qu'ils ne sortent pas volontiers le soir, sur le sujet de l'espérance chrétienne illumine la vie. Là, il y a 7 thèmes. Vous verrez, c'est très intéressant pour les ateliers bibliques qui ont lieu à partir du 5 février, du style l'espérance, sa fonction, comment ça marche, du style le jour de l'éternel et la résurrection, c'est quoi, et du style ce que Jésus introduit lorsqu'il vient, voyez, c'est des sujets comme celui-là, ou le rapport entre ce monde et le monde à venir, d'après les Écritures. Bon, ce sont des grands sujets, mais c'est des sujets dont on se nourrit. Alors, regardez bien ce dessin, c'est un vaudois qui l'avait dessiné à l'époque, le principe des quatre crayons. et il dessine le plus vieil apôtre Pierre et le plus jeune apôtre Jean qui courent vers ce tombeau dont on a dit qu'il était vide. Donc ils ont un visage qui exprime quelque chose de l'attente et de l'espérance. Je passe dans les rangs, ceux qui voudront, j'en ai 25. Je remercie notre imprimeur de nous avoir fait ceci. On ajoutera encore l'adresse qui manque encore, quelque chose comme ça. Merci beaucoup.
En communion avec les chrétiens du monde entier, nous chantons notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Vous pouvez rester debout. Je vous lis une version très légèrement actualisée. La bénédiction de Paul au début de son épître aux Corinthiens, à l'Église de Dieu, qui est à Mérin, à ceux qui ici sont appelés à vivre pour Dieu et qui lui appartiennent par la foi en Jésus-Christ, et à tous ceux qui, partout dans le monde, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Bon dimanche.